Si vous voulez bien vous tourner avec moi dans la lettre de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, si vous voulez lire avec moi à partir du verset 16 du chapitre 2, page 228 dans la Bible à la colombe. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laisseriez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Un passage clé, un passage capital. Un passage libérateur. Parce que c'est un passage qui s'attaque au poison qui tue la relation avec Dieu. C'est les trois symptômes du poison de la religion au sens restrictif au sens négatif du terme. On va voir en fait trois poisons de la religion. Et il ne s'agit pas de se dire « Oh, c'était pour les Colossiens de l'époque ». C'est pour les Niçois du 22 février 2009. C'est pour tout le monde. Ces trois poisons, ils ont pour nom légalisme, mysticisme, ascétisme. Légalisme, mysticisme et ascétisme. Et ça, c'est des choses qui risquent de tuer votre relation avec Dieu. Dieu, nous l'avons rappelé hier, cherche à avoir une relation d'amour et d'intimité avec nous. Et nous, parce que nous sommes loin de son cœur, mais nous sentons qu'il y a quelque part un besoin d'être en bonne relation avec Dieu, nous utilisons ses substituts. Nous nous laissons tromper par ses ersatz. Et nous allons, au lieu d'avoir une relation d'intimité, de libre, de liberté, d'amour profond avec Dieu, nous allons mettre ces choses à la place. Nous allons faire du légalisme, nous allons faire du mysticisme, nous allons faire de l'ascétisme. Et en faisant ces choses, nous passons complètement à côté de la plaque. Nous passons complètement à côté de quelque chose de merveilleux voulu par Dieu. Encore une fois, lisons ces choses en nous disant que peut-être dans ma vie, il y a cette tendance. Peut-être que c'est plus facile de suivre une liste de choses à faire et à ne pas faire que de chercher à avoir une relation libre, une relation sans une liste de choses qu'on peut cocher tous les jours. C'est beaucoup plus coûteux en temps que implication de toute votre vie C'est, le Seigneur, il se moque de vos régulations, il se moque de vos listes de choses à faire. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Une fois qu'il a votre cœur, il a toute liberté de vous utiliser, d'agir dans votre vie, par votre vie, comme il l'entend. Et donc, on va voir ces trois choses qui sont une aberration, une abomination aux yeux de Dieu, parce qu'elles prennent la place de quelque chose de pur, quelque chose de merveilleux, quelque chose de fort, quelque chose de béni, quelque chose qui vous comble parce que vous êtes créé pour cette relation d'amour avec Dieu. Et d'abord, le légalisme. Qu'est-ce que c'est que le légalisme ? Le légalisme, on pourrait définir ça comme définir un code de choses, de rituels à respecter, dans le but d'exalter notre propre ego. Le légalisme, c'est de dire par exemple que, j'allais dire, c'est de dire qu'on ne porte pas de cravate quand on prêche. Mais le légalisme pourrait être tout aussi bien que dans une église calvarie, un pasteur ne porte pas de cravate le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait une cravate ou pas de cravate ? Alors c'est vrai que peut-être certains seront plus à l'aise parce qu'ils aiment bien arriver en jeans, que le pasteur n'ait pas de cravate, mais peut-être que d'autres personnes qui ont tout autant besoin de la parole de Dieu seront mal à l'aise parce qu'ils diront c'est des jeunes, c'est des gens qui n'ont pas trop de sous, je vais aller dans telle église où les gens sont bien sapés, où je me sentirai mieux à l'aise. Le légalisme, c'est se préoccuper des détails et passer à côté du centre, à côté de ce qui est vital. Et c'est généralement ces codes de conduite qu'on instaure, qu'on exige, qu'on attend des fois tacitement en le disant ou des fois de façon non dite. C'est une pression. Je suis sûr que peut-être il y en a parmi vous qui peut-être aimeraient porter une cravate le dimanche matin, mais vous savez qu'ici, ça serait, on dira, quand je porte une cravate, les gens me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es tombé du lit ou... T'as pas eu le temps de l'enlever depuis hier soir, depuis le mariage ?» C'est dans le but de s'auto-exalter. Je vais dire, on ne porte pas de cravate. Et moi, je ne porte pas de cravate. Moi, je fais partie des gens bien, des gens qui suivent les voies de Dieu. Parce que Jésus ne portait pas de cravate. Ah. Mais vous voyez comment c'est ridicule, comment c'est des détails. Et Paul nous dit ainsi donc, en commençant ce passage. Ainsi donc, ça se réfère à ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède ? Il vient nous dire que Jésus-Christ a gagné la victoire sur la croix. Nous étions des hommes de péché, mais nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes morts avec lui par le baptême et nous sommes ressuscités, verset 12, en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Nous étions morts autrefois par nos offenses, par le fait que notre chair était incirconcise. Ça veut dire que nous étions encore sous le coup du péché. Nous n'avions pas fait ce geste spirituel qui revient à couper la chair, ça c'est la circoncision physique, de l'esprit. Et lui nous a rendus à la vie avec lui. Jésus est pour la vie, il n'est pas pour des églises mortes, il est pour des églises remplies de son esprit, de sa joie, de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, des épreuves, mais il nous a rendus à la vie avec lui. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé, il l'a cloué à la croix. Avant ce geste de la croix, ce merveilleux sacrifice de Jésus pour nos péchés, pour nous par amour, nous étions condamnés. Les 10 commandements, chacun des 10 commandements, était comme un acte de condamnation. Tu aimeras ton Dieu seulement. Oh ben j'aime bien aussi le faire du sport, me maintenir en forme. J'aime bien réussir dans mon travail. J'aime bien l'argent, en fait. J'aime bien... Non, tu aimeras ton Dieu seul. Tous ces actes, tous ces 10 commandements et toutes les lois qui étaient associées à ces 10 commandements, nous les avions violés. Jésus a même indiqué aux pharisiens, c'est-à-dire aux chefs religieux de son époque, qui croyaient obéir à ces 10 commandements. Ah, pensez que vous suivez ces 10 commandements. Vous avez entendu dire qu'il est dit, tu ne diras pas de mal contre quelqu'un. Tu ne tueras pas plutôt. Ah oui, les chefs disaient, mais j'ai jamais tué personne. Vous avez entendu dire que vous ne devez pas tuer, mais moi je vous dis, moi Jésus, moi le Fils de Dieu qui est venu ici par amour, je vous dis que chaque fois que vous dites du mal de quelqu'un, vous dites raca, espèce d'imbécile, à votre frère, si vous aviez la possibilité sur le moment de pouvoir le supprimer, de l'éliminer, vous le feriez. Vous avez déjà violé ce commandement. Oh, vous dites, je n'ai jamais commis l'adultère, je suis fidèle à ma femme. Moi, je vous dis que si vous regardez une fille en disant, waouh, j'aimerais bien pouvoir la voir physiquement, moi, je vous dis que vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Et donc, si on est honnête, on doit voir qu'en fait, ces 10 commandements, ils ne sont pas là pour nous donner un mode de vie pour nous permettre de plaire à Dieu. Ils sont là pour nous montrer que on échoue sur toute la ligne. On est condamné. On a un acte rédigé contre nous qui dit « pécheur ». Mais cet acte, il l'a effacé par son sacrifice. Parce que lui qui était parfait, il est mort à ma place. Mes péchés méritent la mort, mais Jésus est mort à ma place. Cet acte, il l'a cloué à la croix. Ponce Pilate avait marqué sur le titulum, le titre qui était le petit bout de bois qui était planté au-dessus de la croix, au sommet de la croix, roi des Juifs, Basileos Iudeos, en grec, en hébreu. Il s'était dit le chef, le roi des Juifs, et c'était la raison pour laquelle Rome le condamnait. Et les Juifs n'aimaient pas ça. Ils ont dit, tu as dit qu'il était roi des Juifs, mais il n'est pas vraiment le roi des Juifs. Est-ce que tu peux enlever ça? Et Ponce Pilate avait eu ces mots, ce qui est écrit, allez vous faire voir ailleurs. Mais ici, Paul nous dit qu'en fait, ce titre qui était marqué, c'était pas parce qu'il était le roi des Juifs, c'est parce qu'il y avait mon nom. Pierre Petrignani était marqué sur ce petit titre. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Mais désolé de vous dire, il y avait aussi chacun de vos noms. Le nom de tous les hommes qui allaient venir à lui, qui allaient se repentir, dire « je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur ». Et Jésus, en clouant à la croix, en effaçant cet acte rédigé, il a gagné la victoire sur tous les anges qui suivent Satan. Il les a dépouillés, il les a publiquement livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Jésus a gagné. Ainsi donc, arrêtez de remplacer la relation d'amour qu'il veut avoir avec vous par le légalisme, par le mysticisme, par l'ascétisme, tous ces ismes qui vous séparent de Dieu en réalité. Légalisme, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Jésus lui-même a enseigné ces choses. Regardons ensemble dans Matthieu 15. Matthieu 15, chapitre 15, verset 10. Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez ». Et il nous dit aujourd'hui « Écoutez et comprenez ». Mettez bien ça dans votre petite tête. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Les religions aujourd'hui encore sont très à cheval sur ce qu'on mange. Dans telle religion, il ne va pas falloir manger de tel animal, il ne va pas falloir manger de viande, il ne va pas falloir manger de... Comme si ça avait un effet sur votre relation avec Dieu. Paul lui-même expliquait qu'on pouvait même manger la viande qui avait été sacrifiée si on n'avait pas un problème avec ça. Parce que la viande, ça restait de la viande. Et que si c'était tout ce que, la viande que vous pouviez vous offrir, eh bien tant mieux, c'était toujours de la viande, c'était toujours des protéines qui servaient à votre subsistance. Dans Marc 7, chapitre 7, passage parallèle, il venait de dire au chapitre 7, verset 8, dans Marc, page 47, dans la Bible à la Colombe, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Sans entrer dans le détail, on va passer au verset 14 où il dit « Il appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. » Il va même dire au verset suivant « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Autrement dit, c'est important ce que je vous dis. Écoutez bien, comprenez-le. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. C'est pas parce que je mange du porc, c'est pas parce que je mange de la viande, c'est pas parce que je mange tel ou tel poisson que je vais être impur. Ce qui va montrer que je suis impur, c'est ce qui va sortir de mon cœur. Ce sont les paroles de haine, ce sont les paroles de racisme, ce sont les paroles de jalousie. Ce sont ces choses-là qui vont rendre impur, qui vont montrer que je suis impur. Alors vous allez me dire, mais pourtant dans l'Ancien Testament, il est question de lois relatives à ce qu'il fallait manger et pas manger. C'est vrai. Et on pense en fait que ces lois relatives à la diététique, la médecine moderne a montré qu'en fait c'était des bonnes lois d'hygiène de vie, d'hygiène diététique. Lorsque les Juifs, le peuple d'Israël a traversé le désert, qu'ils ont erré pendant 40 ans, ils ne devaient pas manger certaines choses. Le porc, par exemple, est un animal qui peut rapidement se corrompre, avoir des parasites qui sont mauvais pour l'homme. Et donc, c'était du bon sens de la part de Dieu de dire à son peuple qu'il n'avait pas de frigidaire, qu'il ne pouvait pas conserver la nourriture à une température permettant de ne pas multiplier ces germes néfastes pour la santé de l'homme, de leur dire « abstenez-vous de ça ». De ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Est-ce que c'est interdit de boire du champagne à Calvary-Chapelle, Nice ? Ah, on n'en boit jamais. Je crois que le pasteur serait en colère si on en buvait. Hier, j'étais un peu gêné. Quelqu'un de la noce avait apporté une bonne bouteille de champagne. Il m'a dit, c'est du champagne qui vient de Reims, qui a été fait par des moines, comme vous. J'ai dit, mais vous pouvez entrer et boire votre bouteille. Ils ont dit, non, on va respecter, on va boire dehors. Si le témoignage qu'on donne à l'extérieur de notre foi, c'est qu'on ne boit pas de champagne, alors on a vraiment tout raté. Que dit la Bible ? Et je vous rappelle, c'est vrai que certains peuvent avoir une position radicale en disant pas d'alcool. C'est plus simple, plutôt que de dire ça dépend, qui est là, qui n'est pas là. On a des personnes dans une assemblée de quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines de personnes. Il y a toujours des personnes dans un petit groupe qui ont un problème avec l'alcool. Donc plutôt que d'avoir à exercer du discernement, à connaître exactement ce qui se passe, c'est plus simple de dire on n'encourage pas la consommation d'alcool. Lorsqu'on part en faire des retraites à la montagne, on a trouvé qu'en fait c'était mieux d'avoir un petit peu de vin disponible pour les gens qui aiment boire un peu de vin rouge avec leur fromage, plutôt que de dire le vin est interdit. Mais qu'est-ce que Dieu en a à faire ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne soyez pas ivres. Que l'alcool ne vous contrôle pas, mais que ce soit l'Esprit Saint qui vous contrôle. Jésus lui-même a transformé de l'eau en vin à la noce. Il a même gardé le meilleur pour la fin. Et donc c'est vrai, quelquefois, un peu comme ces traditions, on dit on ne boit pas d'alcool, c'est un péché que de boire de l'alcool. Non, le péché, c'est d'être ivre. Et c'est vrai que c'est facile, si on n'a pas l'habitude, qu'un petit verre de vin, ça vous rende pompette. Et qu'on ne sache plus très bien qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Et ça, c'est ça qui déplaît au Seigneur. Parce que quelque chose d'autre a pris le contrôle de votre vie. Et donc, je sais, dans certains mouvements, Calvary Chapel aux États-Unis, on prévient les pasteurs qui viennent ici, faites attention, est-ce que ça vous gêne s'il y a un peu de vin qui est servi au repas, après le culte. Et la plupart nous disent non, ça ne nous gêne pas. Si c'est fait avec modération, et pour certains, ils vont avoir une politique personnelle de dire je ne touche pas à l'alcool, mon père est mort d'alcoolisme, je sais les ravages que l'alcoolisme peut causer, et c'est vrai que c'est pas une maladie, c'est un péché à la base, avec des manifestations physiques très, très négative, mais Dieu ne nous interdit pas de toucher à du vin. On prend la Sainte Seine avec un jus de la vigne. Encore une fois, c'est parce qu'on sait qu'il y en a qui seraient là. Je peux en reprendre un deuxième ? Et c'est plus simple. Mais on est ainsi fait qu'on accorde des fois plus d'importance aux détails, à la tradition qu'à la vérité. Et Paul nous dit, Jésus est mort pour vous libérer de tout esclavage. Il ne veut pas que vous soyez esclave de l'alcool. Il ne veut pas que vous soyez esclave aussi de traditions personnelles qui disent, ah, moi, l'alcool, je suis trop saint pour y toucher. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats. Quand est-ce qu'on doit se réunir et célébrer un culte à notre Seigneur ? D'après l'Ancien Testament, c'était le jour du sabbat, l'équivalent de notre samedi. Jésus et Paul nous disent ici, peu importe le jour de la semaine, nous célébrons un culte en commun, Traditionnellement, dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, dans l'Église évangélique, le dimanche. Pourquoi ? Parce que c'était le jour de la résurrection de notre Seigneur. Mais vous êtes libre de vous réunir et d'avoir un culte le samedi. Vous êtes libre de vous réunir, d'avoir un culte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Peu importe le jour. Ce qui compte, c'est que vous ayez un jour, au moins dans la semaine, où vous tourniez vos cœurs vers lui, vers Dieu, ensemble. Mais nous avons une étude, nous nous tournons vers lui dans d'autres jours de la semaine. Je sais que vous avez des réunions de prière pendant d'autres jours de la semaine. Il n'y a pas de jour quand Dieu nous a sauvés pour l'éternité. Oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était le jour du sabbat. Et nos frères adventistes disent que le culte, ça se passe le samedi. On fait son sabbat le sabbat. Non, le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat, nous a dit Jésus. Dieu nous connaissait, il savait que on a tendance à nous passionner ou à nous laisser embringuer dans notre rythme de vie au point de lui donner aucun moment de notre vie. On a des frères en Christ, des sœurs en Christ. Nous prions pour eux, pour elles, qu'elle lui donne la place qu'il mérite en venant au moins une fois par semaine, que ce soit le mercredi, que ce soit un autre moment, dans une autre église, un autre jour, mais qu'il prenne le temps de s'arrêter, de se reposer de leur labeur. Et le sabbat, c'était une institution divine pour nous donner du repos. Dieu nous connaît, il nous a fait. Il sait que quand nous commençons à travailler, on veut pas s'arrêter. Où nous commençons à nous amuser, nous ne voulons plus nous arrêter. Il nous dit, prenez le temps de vous reposer, de penser à moi. Et ça, c'est pour votre bien. C'est pas, j'en ai rien à faire que vous preniez un sabbat ou pas. C'est pour vous. Pour que vous ayez le temps de réfléchir, pour que vous ayez le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis au boulot tous les matins, de 5h à 10h du soir. Jusqu'au lundi, je ne m'arrête pas. Parce que le dimanche, il y a besoin de magasins aussi. Puis en plus, comme je suis le seul, je fais de l'argent. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je prends le temps? Non. Alors Dieu nous dit, faites un sabbat. Et le verset 17 explique la réalité des choses. Tout cela, toutes ces institutions de l'Ancien Testament, elles sont parfaites dans leur contexte. Elles sont voulues par Dieu. Dieu ne s'est pas laissé tromper par des prophètes un peu zélés qui ont commencé à écrire des choses qui échappaient à son contrôle. Non, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, elle est celle du Christ. Une façon merveilleuse de lire la Bible, c'est de voir dans l'Ancien Testament des préfigurations du Christ. De voir que ce sabbat hebdomadaire, c'était en fait une préfiguration du repos éternel qui nous attend à la présence de Dieu, où nous cesserons de tout effort, de toute bataille. Nous serons enfin dans la paix. Comme j'indiquais, les lois diététiques avaient des raisons d'hygiène alimentaire. Et c'était aussi des symboles, des ombres, des choses à venir. Il y a des passages comme ça que vous avez sans doute entendus dans la Bible. Vous seriez bien embêté de savoir les placer. L'Ancien Testament, toutes les règles, toutes les lois, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Christ. Le mot réalité, c'est le mot soma, qui veut dire le corps, le physique, ce qu'on peut toucher, c'est Christ. On se moque des régulations, on se moque, ce qu'on veut c'est Christ. Christ veut que vous vouliez Christ, non pas les règlements. Mais nous on préfère s'attacher aux règlements, parce que les règlements on peut dire, ah ben oui, j'ai fait ci, je peux cocher, j'ai lu ma Bible 5 minutes ce matin, en regardant la montre, en lisant sans lire. Ça vous est, ça m'est, je dois confesser, il y a des fois, le matin, je lis ma Bible, mes yeux regardent, parcourent la page, mais mon cœur est loin de Dieu. Mon cœur est sur le projet que j'ai pour l'après-midi. Et là, je suis prêt à cocher ma case. Et Dieu dit, oh, légalisme, légaliste, légaliste. Quelle horreur. Pierre, écoute-moi. Oh, c'est bon, j'ai fait mes devoirs, mes dévotions. J'aime pas ce mot, parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qu'on peut cocher. Est-ce que j'ai passé du temps avec Dieu aujourd'hui ou pas? L'ombre des choses à venir. On a cette expression en français, lâcher la proie pour l'ombre. Ça fait allusion à un chien qui aurait entre sa bouche du gibier, mais qui verrait l'ombre de ce gibier plus grande que le gibier lui-même sur le sol et qui lâcherait sa proie pour aller essayer d'attaquer la proie, l'autre proie beaucoup plus grande. Imaginez si hier, quand Marc et Mina étaient là, il y avait la lumière et il y avait l'ombre de Mina par terre. Si Marc s'était mis à genoux et avait commencé à faire des bisous à l'ombre de Mina par terre. Alors il dit, Marc a un sérieux problème, il va falloir l'enfermer et lui faire subir des électrochocs. Dieu nous dit, si vous êtes là à respecter ces règlements, ces trucs, vous avez un sérieux problème aussi mauvais que si Marc avait fait des bisous à l'ombre de Mina par terre. Est-ce que vous voyez la stupidité de notre légalisme? Est-ce que vous comprenez avoir peut-être dans votre vie, et c'est ça le but. Le but, ce n'est pas de se moquer des Colossiens ou de telle ou telle personne. La parole veut nous interpeller. Est-ce que moi aussi, je n'ai pas mes petits légalismes? Ou est-ce que ça devient des superstitions? Si je n'ai pas prié ou si... D'habitude, j'arrive par ici. Par l'allée centrale. Aujourd'hui, je suis passé par le côté. Et l'idée m'est venue que ce n'était peut-être pas un bon signe. Je partage ça, j'ai honte, mais peut-être que ça vous permet, dans votre tête, de vous dire, des fois, je fais des choses aussi bêtes. Des fois, je me dis, si je ne fais pas le signe de croix sur le pain. Mon père était quelqu'un qui était irreligieux, malheureusement. Il avait connu, à sa décharge, je dois dire qu'il avait été élevé par des bonnes sœurs pendant un temps. Et il avait la religion en horreur. Parce qu'il voyait l'apparence, il voyait le manque de réalité. Et donc, il ne croyait plus en Dieu. Mais il avait ce geste, les gens qui ont vécu la guerre ne jetaient pas le pain, on ne jetait pas du pain, parce que le pain c'était sacré, c'était ce qui vous permettait de vivre. Donc le pain rassis, qu'est-ce qu'on en faisait? On le jetait pas, on en faisait du pudding. Il y en a qui ont connu le pudding, peut-être des personnes un peu plus âgées. Et le pudding, c'était ce qu'on appelle de l'étouffe chrétien. C'était lourd, mais ça vous calait. Très bien. Et lui, il avait la tradition, je ne sais pas si ça venait de Corse, il était d'origine corse, avant de couper un morceau de pain, avec la pointe du couteau, on faisait un signe de croix. Purement légaliste, purement tradition. Et il passait à côté de la relation avec Jésus, avec Dieu. Le mysticisme, que personne sous prétexte d'humilité et un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course, un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Ça, c'est un autre substitut, un autre ersatz, quelque chose qui vous fait croire que vous avez remplacé la relation par quelque chose de valable. C'est le mysticisme, un certain mysticisme. Là, les commentateurs ne sont pas trop sûrs de ce qui se passait à Colosse à l'époque. Il est question d'un culte des anges. C'est peut-être référence à cette idée qu'on ne pouvait pas s'adresser directement à Dieu parce qu'il était trop saint et qu'en tant qu'homme physique, on était trop vil. Et donc, au lieu de s'adresser directement à Dieu, on passait par des intermédiaires. Il y a des gens que vous ne soupçonneriez jamais de mysticisme. Ce sont vos voisins. Ils ont besoin de prière. Ils viennent d'apprendre qu'ils ont peut-être une grave maladie. Vous leur demandez, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Et ils vous disent, non, moi je peux pas, mais toi tu pries pour moi. Ils pensent qu'ils sont trop vils, mais qu'il faut quelque chose de plus mystique. Et ils pensent que vous êtes un peu plus mystique parce qu'ils savent que vous avez une Bible à la maison, vous priez de temps en temps avec eux ou vous leur proposez. L'idée que je suis trop loin de Dieu, c'est du mysticisme à l'envers. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'on prie, qu'on lui parle comme on se parle, comme on a une conversation entre gens qui se respectent et qui s'estiment ou qui veulent entamer une relation. Et souvent, c'est sous prétexte d'humilité. Oh non, on va laisser le pasteur prier parce qu'on est trop loin de Dieu, comme si le pasteur était plus apte à être plus près de Dieu. On est tous aussi près de Dieu qu'on le veut. Amen. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, le culte des anges, vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un moment, il y a Jean qui se met à genoux devant un ange et l'ange lui dit « Stop ça, arrête ça !» Seul Dieu, seul Jésus mérite d'être adoré. Alors là, on a l'impression, dans la version à la colombe, qu'on parle de taxi. Il est question que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Alors le prix de la course, c'est pas le prix de la course en taxi. Le prix de la course, c'est le prix que vous remportez, qu'on vous donne, c'est la médaille d'or qu'on vous donne après que vous ayez couru le 100 mètres ou le marathon. Et l'idée, c'était que certains décidaient que, en fait, vous n'aviez pas, parce que vous ne respectez pas certaines approches mystiques, légalistes mystiques, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir la récompense. Récompense, Paul en parle dans 1 Corinthiens 3, 10. On va regarder juste un peu rapidement. Paul met en garde les chrétiens de Corinthe, mais aussi tous les chrétiens, de prendre garde à la façon dont on bâtit sur la fondation que représente la grâce de Dieu, sur la fondation que représente Jésus. Personne ne peut, verset 11 du chapitre 3, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La Bible parle de récompense que nous recevons en fonction de la vie que nous avons vécue pour le Seigneur une fois que nous sommes sauvés. Et c'est seulement pour les personnes sauvées qu'il y a des récompenses. Et je vous rassure, toutes ces récompenses, ces couronnes dont il est question, on va toutes les poser au pied de l'agneau lorsqu'on verra combien il est merveilleux, combien il est saint, combien il est pur. Et c'est ces couronnes, on ne va pas les garder, je pense, pour toute l'éternité en disant, moi j'ai une plus belle couronne que la tienne, nananer. Non, il n'y aura pas de place pour l'orgueil, le vain orgueil. Et c'est ça, c'est que lorsque on... Et c'est l'idée du mysticisme, c'est ce culte des anges. Moi, je parle pas, je jeûne. Si on dit qu'on jeûne, on a perdu tout le bénéfice. Si vous jeûnez, ne le montrez pas. Parce que sinon, c'est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Et encore une fois, l'alternative est merveilleuse, c'est d'être attaché à la tête. Et si on n'est pas attaché à la tête, le membre, le corps va périr. Si vous coupez la tête d'un poulet, il va pas courir longtemps. Il va courir un peu, c'est drôle à voir. Sébastien s'en rappelle. Mais on finit par mourir. Une chose merveilleuse, c'est le corps de Christ. C'est l'ensemble des gens qui mettent leur confiance en lui, tous les sauvés, de toute la terre, du Gabon, de la Chine, des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de la Guadeloupe. On fait tous partie d'un même corps. Et si on est bien connecté au corps, si on prie, si on lit la parole, si on est bien irrigué, alors on croit. Le corps humain est une chose merveilleuse qui devrait rendre croyant toute personne qui a une tête. Pensez que le corps a évolué comme ça par hasard, c'est de la pure stupidité. N'en déplaise à tous nos grands savants anti-chrétiens. Il n'y a pas d'autre chose qu'on ait créé qui puisse grandir harmonieusement. Même un ballon de baudruche, c'est la seule chose qui grandit de façon homogène, finit par éclater. Mais ils n'ont pas encore trouvé... Ils n'ont pas encore fabriqué une voiture qui marche lorsque vous êtes deux, comme Marc et Mina dans leur petite voiture, et puis qui va harmonieusement grandir lorsque vous revenez de la maternité avec votre premier bébé. Ça serait pratique, hein ? Mais on ne sait pas faire, nous les hommes. Dieu sait faire. Ça marche pour notre corps physique, ça marche pour l'Église. Il faut que le corps soit soutenu, rendu cohérent par les jointures et les articulations. Et la croissance, la vraie croissance, elle ne vient pas du mysticisme, elle ne vient pas du légalisme, elle vient de Christ, elle vient de Dieu. Et puis le dernier danger, c'est l'ascétisme. Verset 20, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses sont vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. On se dit, bon, ben, mon corps, il va falloir que je le mate. Je vais jeûner longtemps, je vais jeûner 40 jours comme Jésus. En fait, quand on fait ces choses-là, on s'aperçoit que ces choses-là, comme dit Paul, elles ont l'apparence, il est vrai, il le reconnaît, l'apparence de la sagesse. En tant qu'un culte volontaire, il y a de l'humilité, il y a de la rigueur pour le corps, je vais battre mon corps, je vais le mettre en subjection à mon esprit. Mais il dit, ça ne mérite aucun honneur. Ça ne mérite pas d'être admiré. Et en plus, ça a la particularité étonnante de contribuer à la satisfaction de la chair. Et ça, c'est un paradoxe pernicieux, Mais c'est vrai qu'en voulant mater la chair, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On exalte la chair. On essaye de se dire, si je fais du jeûne, je vais être plus spirituel. Et tout de suite, c'est la fierté, c'est l'orgueil qui va prendre le pas. Et je vous mettrai en garde, il y a des livres sur comment devenir un chrétien plus profond. Je paraphrase les thèmes. Il y a des livres qui sont un encouragement, mais il y a des livres qui sont à rejeter, qui sont à ne pas lire. On essaye de ne pas les avoir dans le dépôt-vente. Mais c'est le genre de livres qui vous disent qu'en fait, votre vie de chrétien, c'est une vie de second ordre et qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Il y a beaucoup plus à vivre dans le mysticisme, dans la relation plus profonde. Et ça vous donne l'impression que vous êtes un citoyen de seconde zone, un chrétien de seconde zone. Par contre, si vous faites ce qu'on vous dit, à ce moment-là, vous allez devenir un vrai chrétien, un chrétien profond, un chrétien qui va compter, un chrétien qui va être utilisé par Dieu. Le problème, c'est que dès que vous vous regardez pédaler, vous tombez. Si vous courez, si vous faites un peu de sport, là, si vous faites du jogging sur la promenade, puis si vous commencez à regarder vos pieds, voir comment ils passent l'un devant harmonieusement, je peux vous garantir que vous n'allez pas aller très loin. Vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, l'un dans l'autre, vous allez tomber. Et c'est la même chose avec cette recherche d'une spiritualité plus profonde. Ça peut être des bonnes remarques, ça peut être des bonnes choses, mais prenez garde à l'orgueil qui est là, prêt à vous reprendre. L'ennemi utilise notre chair, il sait que tant qu'on met notre chair en cage, elle sera là. Tant qu'on essaye de contrôler notre chair, notre vieille nature, en la mettant entre des barreaux, elle va être là et elle va agir d'une autre façon. Notre vieille nature, il n'y a qu'une solution, c'est la tuer, c'est de la reconnaître comme morte. Galates 2.20, c'est le secret. La lutte contre la chair, elle n'est pas remportée par la chair, elle n'est pas remportée par vos bonnes résolutions du début de l'année, elle n'est pas prise par vos engagements signés sur le coup d'une émotion particulière. Votre victoire sur la chair, elle est remportée par l'esprit. Galates 5, 17 nous dit que ces deux ne peuvent pas faire la paix. On ne peut pas avoir une situation à la Suisse. On ne peut pas avoir la neutralité, la paix entre la chair et l'esprit. Verset 17 de Galates 5, « La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, alors vous n'êtes pas sous la loi. » La bête sauvage que représente notre chair, il ne faut pas la mettre en cage, il faut la supprimer. Et cette chair, elle a déjà perdu la bataille. Paul disait dans Galates 2.20, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, si je peux arriver à mériter l'amour de Dieu, être déclaré juste, en obéissant à des règlements, à des légalismes, des mysticismes, de l'ascétisme, alors Dieu, Christ, est mort pour rien. » Vous voyez que c'est grave. C'est grave, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est un passage tellement important. Parce que Christ est mort pour que nous ayons la vie. Christ est mort pour que nous ayons la liberté. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. »